Soudan, c'est un pays un peu difficile parce que je suis toute seule sur mon vélo chargé, pédale à 10 km/h seulement à cause du vent. Il y a des tempêtes de sable, il faut pousser son vélo, c'est lourd, il commence à faire chaud. On est au mois de fin mars, début avril, donc il fait 40, 45, c'est difficile d'avoir de l'eau.
Hello, hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Eh bien écoute, bienvenue Émilie sur le podcast.
Merci, merci de m'accueillir sur ton podcast, Loïc.
Avec grand, grand plaisir. Moi, je suis très content que tu aies pu te libérer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ça. Pour qu'on parle, tu vas nous dire, mais je pense a priori plutôt d'aventure et de vélo. Mais j'en dis pas plus. Je te laisse peut-être nous expliquer ce que tu fais.
Alors, j'ai 40 ans. Donc j'ai toujours travaillé dans le tourisme et depuis quelques années, je me suis lancée dans des voyages à vélo. Alors du coup, avec le Covid, je me suis un petit peu arrêtée pour retrouver mes caisses surtout, parce que ça a été un petit peu compliqué, la perte de mon boulot, etc. Mais voilà, je continue les aventures en ce moment dans les Alpes et prépare mes futurs projets de voyage à vélo à travers le monde.
Excellent. Alors, tu nous dis que tu viens de dire que tu voyages depuis quelques années. Assez humblement, si je ne me trompe pas, ça fait quand même 20 ans, c'est ça? Parce que je suis bien allé tourner sur ton site où tu dis que tu backpack en fait depuis que tu as 19 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je précisais aussi mon âge. Hein, j'ai 40 ans. Donc, ça fait effectivement, oui, 20 ans que je voyage. J'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours voulu voyager. J'ai toujours voulu... justement, avoir ce but dans la vie, c'est pour ça que j'ai fait des études dans le tourisme d'ailleurs. Et en fait, c'est une motivation en soi d'aller voir ce qui se passe ailleurs, l'aventure, la différence culturelle, voir comment les gens vivent dans d'autres pays, etc., etc. Donc, ça a toujours été une grande curiosité et j'ai toujours donc profité de mes temps libres justement pour voyager effectivement. Donc ça fait oui effectivement 20 ans déjà.
Le rêve dirait certains, mais bon, on verra j'imagine à travers cette conversation que parfois il y a aussi voilà, c'est comme tout, des choses qu'on doit accepter de sacrifier pour pouvoir vivre cette vie, mais bon, tu nous en diras plus. Mais peut-être la première question, c'est comment est-ce qu'à 19 ans tu décides de te lancer dans le backpacking? Et comment est-ce que tu as fait pour que ça devienne l'aventure d'une vie, pas forcément non-stop, mais en tout cas quelque chose que tu as réussi à faire sur plus de 20 ans?
Disons que déjà, en étudiant dans le tourisme, j'avais rencontré une fille qui avait vécu à l'étranger beaucoup d'années en Afrique avec ses parents. Et elle me racontait, donc on passait beaucoup de temps ensemble, parce qu'on étudiait ensemble, et elle me racontait les histoires des temps gamines, avec ses parents, elle avait vécu en Afrique de l'Ouest notamment beaucoup d'années, et elle me racontait les aventures justement, étant enfant, à voyager dans ces pays-là, voir des choses totalement différentes, rencontrer des gens totalement différents, une culture, etc., différente. Et donc du coup, cette amie-là m'a donné l'envie de découvrir l'Afrique de l'Ouest, et c'est à 19 ans que je suis partie, on avait des stages obligatoires à l'étranger. Je suis donc partie toute seule, je me suis organisée un stage en Côte d'Ivoire, Et donc, je suis partie en stage un mois et ensuite, j'ai profité un mois pour voyager un petit peu dans le reste du pays à mon compte, en fait. Et puis, ce stage, ça a été vraiment le déclenchement de tous mes autres voyages après. Je me suis dit, j'ai adoré cette expérience et j'aimerais le faire plus longtemps, plus souvent et pas arrêter, en fait, de découvrir les d'autres pays, en fait.
Comment est-ce que tu t'es organisée pour la suite? Si je comprends bien, tu n'es pas voyageuse à temps plein de façon permanente. C'est qu'en fait, vu ton secteur d'activité, tu t'organises des périodes où tu te prends des plus gros breaks pour partir voyager et découvrir le monde, c'est ça?
Alors oui, c'est-à-dire que je commence à travailler jeune puisque je fais des études courtes. Mon but, c'est vraiment gagner de l'argent et puis pouvoir voyager par mes propres moyens sans rien demander à personne, être indépendante sur le point de vue financier. Et donc, je commence à travailler à 20 ans et puis je commence à travailler à Paris. Ça me plaît pas vraiment, donc la vie à Paris, la grisaille, etc. Enfin bref, comme on peut l'imaginer, hein, c'est tout à fait ça. Donc du coup, je travaille 2 ans, mais ça me permet déjà de mettre un petit peu d'argent de côté, parce que moi, je suis une fille très simple, donc j'arrive facilement, quand j'ai une motivation, à mettre de l'argent de côté. Et puis, je me dis, bon, je vais pas passer toute ma vie à Paris, et je commence, en fait, après 2 ans de travail à Paris, je me suis dit, bon, je vais demander un congé sans solde, qui est accepté sans problème, et avec mes petites économies, je pars faire le tour de l'Amérique du Sud avec mon sac à dos. Donc là, je pars 8 mois et je fais le tour de l'Amérique du Sud. Et en fait, je me dis un peu, bon, j'ai 20 ans. Enfin, à cette époque-là, j'ai 22 ans parce que du coup, ça fait 2 ans que je travaille. Je me dis, c'est le grand voyage que je vais faire dans ma vie. Peut-être que je vais avoir jamais l'occasion de le refaire puisqu'on ne sait jamais. Après, on pense tout de suite, peut-être qu'on veut fonder une famille, peut-être qu'on veut acheter une maison, peut-être que si, peut-être que ça. À 20 ans, on a peut-être d'autres projets dans la tête. Et puis, en fait... moi, je vois que ce voyage, en fait, va en déclencher d'autres. En fait, c'est le début d'une longue histoire de voyage. Et je me dis maintenant, à mon retour, donc du coup, je démissionne, je vais vivre à Barcelone. Et puis, donc, du coup, je travaille pour une compagnie aérienne. Je suis basée, par contre, à l'aéroport de Barcelone. Et cette compagnie aérienne, évidemment, me permet d'avoir des billets gratuits et pas mal de temps libre, du coup, des vacances supplémentaires par rapport aux gens normaux, puisque en travaillant dans un aéroport, on travaille les jours fériés, etc. On fait pas mal d'heures, donc du coup, on est un petit peu en décalé par rapport aux autres, hein, par rapport aux gens qui travaillent de 9h à 18h dans un bureau. Mais donc, on a du temps libre en plus, qui nous permet de voyager encore plus. Donc, combinaison de voyage presque gratuit, entre guillemets, et du temps libre, et donc du coup, ce qui me permet de voyager quand même pas mal pendant toutes ces années-là.
Génial. Et alors, qu'est-ce qui fait que ce premier voyage en Amérique du Sud long, ça a été le déclencheur pour toi, maintenant avec du recul?
Disons que je me dis, faire un voyage long, en fait, c'est la liberté aussi de pas forcément avoir de date de retour, de faire un petit peu ce qu'on veut, de découvrir, de passer plus de temps dans un endroit qu'on aime, par rapport aux vacances de 3 semaines où on court partout sans rien trop voir. Et finalement, on voit tout sans rien voir. C'est-à-dire qu'on court partout, mais finalement, on ne s'imprègne pas vraiment de la culture du pays ou des gens, etc. Et donc, du coup, quand on voyage comme ça pendant longtemps, on a vraiment le temps de s'imprégner d'un lieu, de pouvoir rester dans un endroit qu'on aime bien. Par exemple, la Patagonie particulièrement, où j'ai fait pas mal de trek, où j'aimais vraiment beaucoup cet endroit, donc je suis restée plus longtemps que prévu. Ensuite, au Brésil aussi, je suis restée pas mal de temps parce que j'aimais beaucoup les gens, l'ambiance, etc. Enfin, voilà, après, on peut pas, en 8 mois, c'est vrai que ça passe vite aussi pour voir un sous-continent, mais on a quand même le temps de profiter, quoi. Voilà, et je me suis dit, bon, ça... un jour, je le referai. Mais après, après, le problème, c'est qu'on tombe dans la routine, on retrouve du travail, on se met en couple, etc., etc. Et donc, du coup, c'est pas forcément facile de le faire ou de le refaire, en fait. Voilà.
Ouais. Mais malgré tout, c'est quelque chose que toi, tu as réussi, des voyages aussi longs que tu as réussi à recréer, même si, comme tu viens de le dire, ce n'est pas forcément facile. C'est une expérience que tu as réussi à répéter plusieurs fois.
Oui, voilà, en fait, c'est toujours resté dans un coin de ma tête de pouvoir refaire des voyages longs. Mais en même temps, comme j'avais cette commodité, entre guillemets, de ce travail qui n'était pas trop mal payé, je pouvais voyager quand je voulais, etc., etc. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis fatiguée de cette routine. Le travail me plaisait plus trop. C'était devenu un peu routinier. Dans mon couple, ça allait pas du tout. On était sur le point de se séparer. Donc, du coup, ça a été vraiment un moment où tout a concordé pour dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire autre chose. Oui. J'ai envie de passer la page et j'étais plus motivée pour rien. Je me suis dit, bon, c'est le moment de tout arrêter. De se donner une pause et de voir vraiment ce qui me rend heureuse. Parce que là, j'étais plus du tout. Enfin, j'étais plutôt. Je vivais par inertie, en fait. C'était plutôt ça. Et je me dis, s'il n'y a plus grand-chose qui me motive, allez, j'arrête. Mon boulot, ça ne va pas. Je le laisse. Et je trouverai autre chose. Et en fait, ça a été le déclic en 2015. J'ai tout arrêté. Je me suis séparée. J'ai arrêté ce boulot-là. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais écrire sur un papier ce que j'ai envie de faire, en fait, dans le futur. Ce qui me rendrait heureuse, ce qui me ferait plaisir, etc. Et j'ai commencé à faire ça, et il y a plusieurs choses qui en sont ressorties. Et voilà, et je pense que j'hésiterai pas maintenant à refaire ça, en fait, de, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis plus heureuse, est-ce que je vais marquer sur un papier ce que je voudrais faire, même si c'est des rêves un peu fous. Et du coup, sur ce papier, c'était des choses un peu folles, des idées un peu extraordinaires, justement. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, justement, réaliser ce qu'il y a sur ce bout de papier?
Waouh! Punaise! C'est fou de voir... comment est-ce que tu as décidé de te prendre en main, mais de venir casser, tu vois, cette inertie dans laquelle tu te trouvais pour... te redonner un élan, j'ai l'impression, en tout cas. Quand je t'écoute, c'est un peu ça que moi, j'entends. Donc, il y avait des choses complètement folles sur ce papier. Et du coup, la concrétisation de certaines d'entre elles, ça a donné quoi?
Alors, ça a donné justement une pause, déjà. Une pause, je suis partie en voyage pendant 4 mois. Je suis partie donc faire un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Mais justement, je ne voulais pas faire un voyage à la va-vite. Juste 15 jours, rapide. Donc, je suis partie au Népal, parce que ça me faisait plaisir depuis très longtemps de partir longtemps. Donc, je suis partie un mois et demi au Népal. Donc, j'ai fait quelques treks qui me faisaient plaisir. Donc, le camp de base de l'Everest, la vallée de Gokyo.
Ah, génial.
Et puis, un petit peu à Katmandou pendant le festival du Deepavali. Enfin, des choses que je voulais vraiment vivre. Dans un pays où je voulais aller depuis très longtemps. Ensuite, je suis passée au Tibet parce que je voulais aller aussi au Tibet depuis très, très longtemps. J'ai fait le sud de la Chine. Donc, au total, c'était un voyage de 4 mois pour me dire, bon, est-ce que je réalise ces voyages fous? Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie, etc. Donc, ça a été une petite pause, en fait, pour réfléchir à tout ça. Et quand je suis revenue, en fait, en Europe, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Et donc, du coup, je suis partie au Guatemala.
Ok.
Je suis partie vivre au Guatemala parce que dans ma liste, en fait, il y avait un projet professionnel qui était de devenir guide de voyage d'aventure. Mais j'avais aucune expérience. Ouais. Et j'avais connu dans un voyage précédent au Guatemala, j'avais connu une association qui aidait les enfants de la rue et qui cherchait des guides, des gens motivés, en fait, pour guider des gens dans la montagne. Et le bénéfice de ce que payaient les touristes, en fait, allait directement à une école des enfants défavorisés et un dortoir pour des enfants de la rue. Je me suis dit, ça, ce serait un super projet, en fait, pour participer à un projet. Et du coup, en fait, on part comme volontaire pendant 6 mois. Donc, on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré pour notre travail. Mais en même temps, moi, je me suis dit, bon, c'est toujours quelque chose que je vais aimer faire, emmener des gens dans la montagne. En même temps, je me forme. Et en même temps, je participe à un projet pour des enfants de la rue au Guatemala. Donc, finalement, c'est un bon compromis, un bon projet. Et puis, au niveau financier, je pouvais encore me le permettre, c'est-à-dire vivre 6 mois au Guatemala sur mes économies. Oui. Ça quand même... voilà. Donc, du coup, je suis partie 6 mois comme guide volontaire. Et ça a été une super expérience parce qu'on vit tous les jours... dans l'ambiance du Guatemala, on va au marché, on va préparer la nourriture pour les treks, on reçoit les clients, on les emmène en montagne, mais aussi on vit avec l'association donc des enfants, donc on va aussi participer aux activités des enfants, on leur prépare un repas une fois par semaine, enfin on a beaucoup d'interactions du coup avec les enfants, donc du coup c'est cool. Et c'était une autre pause de 6 mois qui a été très, très enrichissante pour moi. Et je me dis que aussi travailler pour quelqu'un d'autre, en fait, travailler sans salaire, se lever tous les matins pour se dire, c'est super enrichissant, je trouve, parce que du coup, on donne son temps pour les autres. Et j'ai aussi voulu, ouais, justement, donner de mon temps pour les autres, parce que pendant mes voyages précédents, tout le monde m'avait toujours aidé. J'avais toujours trouvé des gens pour m'héberger ou pour quand j'étais perdue, pour vraiment m'aider sur mon chemin. Et je me dis quelque part, il faut que je redonne tout ce temps ou toutes ces faveurs qu'on m'avait accordées. C'était peut-être le temps justement de redonner tout ça en fait. Donc du coup, je me suis dit, ça peut être aussi une occasion pour aider quelqu'un d'autre et justement, retourner toutes ces faveurs qu'on m'avait faites auparavant. Voilà. Ouais. J'avais comme une dette, en fait. Enfin, bon, je l'ai toujours, la dette, parce qu'on m'a toujours bien aidée dans tous les pays, dans tous mes voyages. Ça fait des années et des années de faveurs que je devrais retourner aux gens. Mais voilà. Donc, c'était très enrichissant. Et ensuite, du coup, c'est là où je suis devenue guide saisonnière. Ensuite... en Espagne, j'ai trouvé un boulot saisonnier, donc de juillet à octobre, dans une agence de voyage qui est spécialisée dans les voyages en Afrique. Donc, comme je connaissais bien l'Afrique et j'avais eu cette expérience de guide au Guatemala, du coup, ils m'ont tout de suite appelé et du coup, ça faisait partie d'un de mes projets, justement, de professionnel, de me reconvertir en tant que guide de voyage. Et franchement, je ne regrette pas du tout cette reconversion. Et voilà, c'était une autre aventure dans ces années-là.
Et pourquoi l'Afrique ? Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement sur ce continent ?
Disons que c'est le premier pays que j'ai découvert. Donc, quand j'étais jeune, hein, c'est le premier pays où je suis allée. C'était en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours aimé en fait l'Afrique parce que je trouve que c'est un continent qui a une culture bien particulière, un mode de vie, un mode de pensée aussi bien particulier. Et puis c'est très dépaysant. Et puis le fait d'être aussi blanche dans un pays de noir, enfin, je veux dire, une différence culturelle, pour moi, c'est du dépaysement total l'Afrique. Oui. Parce qu'on peut voyager dans un autre pays. Il y aura toujours une culture différente, etc., mais il y aura toujours un mode de vie peut-être plus proche. Et je trouve que l'Afrique, c'est le continent du coup le plus dépaysant, selon mon point de vue. Et en plus, l'avantage de l'Afrique, c'est que les gens sont très débrouillards, les gens sont super accueillants, ils vont toujours t'aider n'importe où, n'importe quoi. Les gens vont toujours trouver une solution, ils vont toujours trouver à t'aider. Du coup, ça fait chaud au cœur et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, quoi. Ils vont pas... justement, ils ont cette gentillesse, cet accueil qu'on trouve aussi dans d'autres pays. Hein. Je dis pas que c'est seulement en Afrique, mais il y a quand même un certain côté très authentique en Afrique que j'aime bien et qui reste vraiment... à travers les années, en fait, on retrouve ce trait, après 20 ans, on voit que les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé par rapport au mode de vie, par rapport à l'accueil, à la gentillesse, à la bienveillance, etc. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans l'Afrique.
C'est intéressant comme, comme retour d'expérience pour le coup de quelqu'un qui connaît vraiment très bien, puisqu'on va en parler encore une fois avec humilité, tu nous dis pas tout, mais là j'ai ton site sous les yeux, donc je sais combien de dizaines de milliers de kilomètres tu as fait à vélo en Afrique seule. Mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue justement sur qui vient un petit peu casser, tu vois, ce que parfois on entend ou ce qu'on voit sans y être allé. Et j'en discutais avec un autre invité, un autre frappé, celui-là aussi, qui vient de faire 6000 km de la source du Nil au Caire, à pied, et qui m'expliquait que, en fait, il avait fait des rencontres fabuleuses, tu vois, dans des endroits où, je pense que si tu vas sur le site des affaires étrangères français, du ministère des affaires étrangères français, pour te renseigner sur le niveau de sécurité, on te dit surtout n'y mets pas les pieds. Donc c'est intéressant, oui. Tu vois, d'avoir ton point de vue. Sur la réalité des rencontres que toi t'as pu faire.
Oui, effectivement, oui. Le problème, c'est beaucoup aussi les médias, effectivement, le site des affaires étrangères, comme tu en parles. Quand on regarde la carte de l'Afrique, c'est plutôt tout en rouge. Donc la couleur rouge, c'est n'y allez pas, surtout, sauf motif impérieux ou n'y mettez pas les pieds parce que vous allez vous faire tuer, alors que. Et le problème aussi, c'est les médias. On parle souvent de l'Afrique, pauvreté. Donc, pauvreté dit aussi délinquance dans les villes, dit aussi maladie, manque de matériel médical, un retard dans la santé, etc. Donc, du coup, les gens ont peur de l'Afrique. Oui. Ils disent « Oh là là, c'est quoi ce continent ? Il y a des gens pauvres, en plus il y a des maladies, etc. etc. » Alors que l'Afrique, c'est autre chose. On ne parle pas des couleurs de l'Afrique, de la gentillesse de l'Afrique. Il faut aussi faire la différence entre les pays en conflit et les pays qui ne sont pas en conflit. Hein, en Afrique, il y a 55 pays, ils ne sont pas tous en conflit. Hein, ouais. Après, je ne sais pas combien sont encore en guerre ou en conflit, mais j'ai voyagé dans 34 pays des 55 pays et il n'y en a aucun qui était en conflit. Et ça s'est très bien passé. Et au contraire, moi, je recommande justement aux gens d'y aller, d'y retourner et de voir par eux-mêmes, justement, en fait, et de juger par eux-mêmes en voyant ce qui se passe là-bas. Les gens jugent trop vite en écoutant justement les médias, en écoutant ce qui se passe.
Oui.
On parle toujours des attentats ou des guerres, etc. Et on ne parle pas forcément justement de la bienveillance des gens ou de l'accueil des gens dans certains pays, voilà, où ça se passe très bien. Donc c'est ça qui est dommage, en fait.
Oui.
Que les gens qui ne connaissent pas jugent trop vite par ce qu'on entend, en fait, dans les médias. Et ça, c'est vraiment dommage, en fait.
Alors justement, toi, tu connais très bien. Donc est-ce que tu serais d'accord pour nous parler un petit peu plus de ton périple que tu as fait en 2018, si je me souviens bien, où tu as traversé 10 pays sur quasiment 15 000 km à vélo et surtout seul?
Alors déjà, en fait, oui, c'était en 2017. En fait, je l'ai fait en deux fois ce voyage. C'est vrai que c'est une aventure complètement folle. Et pour moi, ce qui était nouveau, en fait, c'était le voyage à vélo. C'est-à-dire que je me lançais dans une aventure. Finalement, je ne savais pas trop si déjà j'allais arriver au bout. Si j'allais, au bout d'une semaine, prendre un bus ou un train et laisser mon vélo dans un coin pour continuer en bus ou...
Sachant que tu partais du Caire pour aller au Cap, hein. C'était ça l'itinéraire, c'est ça ?
Oui, voilà. Donc, je suis partie. J'ai pas vraiment dit à beaucoup de monde que je partais en vélo. J'ai plutôt dit aux gens, je pars pour quelques mois. J'ai pris un billet aller simple pour le Caire. Et dans mes bagages, j'emmène un vélo. Voilà. Donc, j'ai dit à quelques amis proches que j'allais faire du vélo, que j'allais commencer en vélo, mais que, voilà, que la suite était incertaine, en fait. Dans ma tête, j'avais bien l'intention de traverser le continent à vélo, mais après, je n'osais pas vraiment le dire, en fait, parce que les gens Les gens vont essayer, en fait, dans un projet comme ça, un petit peu sorti de l'ordinaire, vont essayer de te protéger, donc du coup de te décourager en même temps. Puisque, est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu es vraiment capable de faire ça? Est-ce que tu t'es entraîné? Alors moi, je ne me suis pas du tout entraînée avant de partir, déjà. J'étais même pas sûre que tout tenait dans mes sacoches. J'avais même pas monté mes sacoches. Enfin, j'avais même pas essayé mon vélo chargé. Enfin, je suis partie vraiment en organisant ce voyage en 2 semaines. Pour vous dire que, en fait, si vous avez une idée dans la tête, même si elle paraît un peu folle, allez-y. Enfin, allez-y. Vous allez essayer. Et le pire que vous pourrez faire, c'est revenir. Et puis échouer, mais en même temps, vous aurez toujours essayé. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis, bon, pour le moment, en fait, j'en parle à personne parce que les gens vont essayer de me décourager. Effectivement, j'en avais parlé à ma famille quand même proche, mes frères et sœurs, mes parents. Et ma sœur, effectivement, 2 jours avant que je parte, a essayé en fait de me décourager. Elle me dit, mais tu te rends pas compte, en plein milieu du Soudan, tu vas être toute seule. Il y a quand même un risque terroriste, tu es quand même une cible facile, etc., etc. Donc effectivement, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit sur le site de l'ambassade de France, etc. Donc du coup, moi je suis quand même assez aventurière et je suis quand même assez têtue, donc je suis quand même partie, hein, je ne me suis pas laissée décourager. Ouais, j'ai quand même, je me dis, bon, j'ai quand même confiance en moi, en fait, on va dire aussi. Il faut avoir beaucoup confiance en soi quand on monte un projet comme ça, en fait, de se dire, de ne pas se décourager dès la première réflexion, en fait.
Est-ce que tu crois dans la chance aussi, sur des projets de cette envergure?
La chance?
Oui.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a un petit facteur chance. Mais je pense que la chance, on la provoque aussi. Enfin,
oui.
Je veux dire, il ne faut pas tout baser sur la chance. Moi, les gens me disent souvent, ah, t'as de la chance. Oui, peut-être. Mais il faut aussi tout faire, justement, pour que tout se passe bien. Et puis, pour faire les bonnes rencontres. Après, c'est beaucoup d'intuition aussi. Donc, du coup, je pars avec mon vélo. Et effectivement, bon, en Égypte, ça se passe très bien. Les gens sont très accueillants. En plus, il y a une baisse du tourisme. Donc, du coup, ils sont contents de voir une étrangère qui va leur faire de la publicité, qui va vraiment connaître le pays en plus puisqu'elle traverse à vélo. Donc je suis reçue mais les bras ouverts. Et ce qui est marrant c'est que en sortant du Caire, à peu près 200 km, donc 2 jours de vélo à peu près, 2-3 jours de vélo, je rencontre un policier et puis il me dit, non mais attends un petit peu. Donc je comprends pas très bien parce qu'il parle arabe, il parle pas très bien anglais, donc voilà. Et il me dit, attends, tu peux pas passer. Je fais, bon, il y a un problème. Donc, il me sert le thé, on discute, etc. Et il me dit, on va t'escorter.
Ok.
Et donc là, c'est très marrant parce que je me dis, vous allez m'escorter, mais comment vous allez m'escorter? Vous allez venir avec moi en vélo? Il me dit, non, c'est bon, tu peux y aller. Donc, je pars et en fait, quand je pédale, je vois tout d'un coup qu'une voiture me suit, en fait. Et c'est très marrant, en fait, parce que des policiers m'ont suivi en Égypte pendant 700 kilomètres.
Ah ouais?
C'est-à-dire qu'il y avait une voiture devant et une voiture derrière moi pendant 700 kilomètres. Ils m'ont escorté tout le long, presque.
Excellent.
Sur une grande partie de mes 1000 kilomètres en Égypte. Et ça, c'était très marrant parce que on voit, en fait, on se dit, mais en France, ce serait impensable, en fait, que des policiers vous escortent et la patience de vous escorter, enfin, voilà, et puis sans rien demander en échange. Enfin, c'était totalement gratuit. Donc, c'est quand même assez impensable. Et puis après, moi, je me suis dit, mais c'est pas nécessaire, en fait, que je me sens tout à fait en sécurité dans ce pays. Et en fait, non, ils veulent escorter les touristes qui viennent à vélo parce qu'il y a... Forcément, bon, en Égypte, on connaît certains risques terroristes, donc ils ne veulent pas prendre le risque qu'une touriste à vélo soit la cible de terroristes. Donc ça m'a fait rire parce que à chaque fois que je m'arrêtais prendre le thé, hop, ils s'arrêtaient, ils m'invitaient. Enfin, c'était vraiment.
Génial.
Bon, c'était vraiment très spécial quand même. C'était très marrant.
Mais parce que là, du coup, tu dormais. Tu bivouaquais sur ces 700 km en Égypte?
Alors, du coup, le bivouac, il ne m'autorisait pas à bivouaquer, évidemment, parce qu'une femme seule en Égypte, c'était un peu compliqué de faire du bivouac avec des policiers. Donc, du coup, ce que je faisais très souvent, en fait, où je leur demandais un hôtel local, donc il m'emmenait dans des endroits pas chers, enfin, des bouis-bouis où je pouvais passer la nuit pas trop cher, des endroits où dorment les Égyptiens,
Oui.
où je leur demandais de dormir au commissariat.
Ah
Et
ouais.
donc, du coup, je mettais ma tente dans le jardin du commissariat.
Génial.
Et je dormais là-bas. Ouais. Ou alors, des fois, ils me prêtaient un bureau. Et donc, je pouvais mettre mon matelas et mon sac de couchage par terre dans leurs locaux, en fait.
Génial.
Et donc, c'était vraiment très marrant, quoi. Parce que quand on pense à ça en Europe, ce serait vraiment impensable de camper dans le dans les bureaux de la police. Enfin, ce serait
Ouais,
vraiment.
ouais, ouais.
En même temps, je l'ai jamais fait, mais je sais
Excellent.
pas si vraiment s'il y a des policiers qui m'écoutent, je sais pas si vraiment ils nous laisseraient camper dans les locaux de la police.
Ouais.
Enfin, ça, voilà. Donc, c'était l'anecdote ça de l'Égypte, c'était vraiment particulier. Et du coup, j'arrive à Assouan. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Là, l'aventure est lancée, je peux pas m'arrêter, quoi. Et donc, du coup, je continue mon aventure au Soudan. Et là, le Soudan, je sais pas si. Je vous invite d'ailleurs à lire mon blog sur ce pays, parce que justement, ce dont je parlais avant de l'insécurité, etc., si on regarde le Soudan, c'est peut-être le pays qui a le plus. De mauvaise réputation dans les pays que j'ai traversés. Effectivement, il est presque tout en rouge dans la diplomatie française, dans le site de la diplomatie française des voyages à l'étranger. Et pourtant, c'est le pays où j'ai été le mieux accueilli. Et vraiment extraordinaire. Les gens sont d'un accueil, ils sont vraiment chaleureux. C'est vraiment l'accueil comme vraiment pas corrompu par le tourisme, vraiment
Ouais.
très heureux d'accueillir un étranger en fait, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa nationalité. C'est un étranger, il n'est pas chez lui. On se doit de l'accueillir chez nous. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'hospitalité soudanaise comme on peut retrouver aussi dans certains pays arabes, comme l'Iran. Je compare beaucoup. À l'Iran aussi, où les gens sont d'une hospitalité incroyable. Et le Soudan, en fait, il se passe ça. Partout, 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 je suis invitée. Les gens sur le bord de la route me crient hey, c'est l'heure de manger, viens, viens à la maison.
Ah ouais.
Ne reste pas toute seule sur la route. Il fait chaud, viens te rafraîchir à la maison, viens manger, viens te reposer. Et c'est vraiment. Alors, le Soudan, c'est un pays un peu difficile parce que je suis toute seule sur mon vélo chargé. Parfois, il y a du vent. Je pédale à 10 km/h seulement à cause du vent. Donc, je fais pas beaucoup de kilomètres par jour. C'est décourageant parfois. Il y a des tempêtes de sable. Il faut pousser son vélo. C'est lourd. Bon, encore, il n'y a pas trop de relief, donc ça va. Mais il fait chaud. Il commence à faire chaud. On est au mois de fin mars, début avril, donc il fait 40, 45, donc il fait très chaud, c'est difficile d'avoir de l'eau sur le bord de la route, donc de se rafraîchir, de se mouiller un petit peu pour pouvoir avancer sans trop de peine. Et les gens sont un contraste par rapport à ce milieu hostile, en fait. On pédale au milieu du désert, il n'y a rien, il n'y a pas un arbre. Mais les seules petites baraques qu'on voit, tout le monde, tout le monde, tout le monde te voit, te salue et t'invite. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Et ça, je m'en souviendrai mais toute ma vie. Et j'en parlerai à tout le monde autour de moi, que les Soudanais, vraiment, chapeau. C'est vraiment un peuple très hospitalier et très extraordinaire. Et malheureusement, la réputation qu'ils ont, c'est vraiment, moi, ça me fait mal au cœur, en fait, voilà, de me dire que les gens ne vont pas au Soudan parce qu'ils pensent que c'est un pays dangereux, alors que c'est tout le contraire. Et tous les gens que vous allez rencontrer qui vont être allés au Soudan vont vous dire la même chose. C'est pas que moi, hein. C'est vraiment extraordinaire. Et puis il y a tous ces sites, pyramides abandonnées au milieu du désert. Alors pour ceux qui aiment l'archéologie, l'histoire, etc., c'est aussi extraordinaire. Hein, on arrive dans une zone où il y a des pyramides. Alors on est tout seul, il n'y a pas un touriste, il n'y a personne. On pourrait même emporter les pierres de la pyramide chez soi parce qu'il n'y a aucun gardien. L'entrée évidemment est gratuite. Enfin voilà, et on est dans une zone où il y a la pyramide et personne, pas un touriste. On peut même camper, bivouaquer au pied des pyramides. Enfin, c'est extraordinaire.
Incroyable.
D'ailleurs, le Soudan, je ne sais pas si vous le savez, c'est le pays où il y a le plus de pyramides dans le monde.
Donc,
il y a
je savais
plus
pas
de pyramides qu'en Égypte ou qu'en Amérique du Sud. Oui. Après, elles ne sont pas en si bon état, évidemment, puisqu'ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent pour les restaurer, pour les aménager, pour enlever le sable. Parfois, elles sont enfouies dans le sable. Donc, c'est vrai que ça fait un effet quand même assez aventurier d'arriver dans ces endroits où pas grand monde va visiter. Mais vraiment, c'est un pays vraiment extraordinaire. Donc voilà mes aventures au Soudan. Et donc ensuite, je continue en Éthiopie, où là, ça se passe un peu différemment, puisque le contraste entre l'Éthiopie et le Soudan est assez compliqué,
okay.
Puisque je ne sais pas si... c'est vrai qu'à vélo, le voyage est un peu différent de ce qu'on pourrait faire en bus ou en backpack. En vélo, on est exposé vraiment aux gens. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le voyage à vélo, c'est qu'on connaît beaucoup plus les gens. On s'arrête dans des villages où on ne se serait jamais arrêté en bus ou en tant que touriste.
Oui.
Et on découvre des endroits, en fait, qui sont pas visités ou très peu visités, des étrangers. Et c'est ça aussi que j'aime bien, c'est que les gens sont restés authentiques et on découvre, en fait, beaucoup plus... l'intérieur, la vie des gens, la vie du pays, vraiment comment vivent les gens dans les champs, chez eux, dans les petits villages reculés. On arrive dans des endroits où finalement il n'y a pas beaucoup de passages au niveau touristique.
Et là, qu'est-ce que tu y trouves du coup en Éthiopie ?
Oui, en Éthiopie, par contre, c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire que je pense que l'Éthiopie, pendant beaucoup d'années, a reçu... des aides internationales et reçoit encore beaucoup d'aides d'ONG, etc. Et donc, du coup, les gens ont tendance à demander de l'argent, à demander des choses. C'est « tu es blanc, tu as de l'argent, donne-moi ». Moi, c'est la sensation que j'ai eue en Éthiopie, en fait. C'est « donne-moi de l'argent, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi tes vêtements ».
Ah oui.
Et en fait, les gens, voilà, tu es sollicité tout le temps dans le pays, constamment en fait, c'est constamment, donne-moi. Et ça, c'est, quand on est à vélo, il y a déjà un effort physique qui est important. En Éthiopie, en plus, moi je ne suis pas une athlète, hein. Moi je suis une fille normale, je ne me suis pas entraînée avant de partir. Et je ne connaissais pas le voyage à vélo, je ne faisais pas de vélo avant. Je ne suis pas spécialement sportive, un petit peu. Enfin, maintenant, beaucoup plus, je vous avoue. Mais avant, je n'étais pas spécialement très sportive. Et donc, du coup, l'Éthiopie, ça a été très difficile parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu le relief de l'Éthiopie, mais c'est très montagneux. En plus, je suis passée par des zones vraiment de beaucoup de dénivelé. Et donc, du coup, l'effort physique était très intense. Et en même temps, on a eu cette population qui était, à chaque fois que je m'arrêtais, c'était vraiment beaucoup de gens autour de moi, la curiosité et des gens qui me sollicitaient, en fait, donne-moi de l'argent, donne-moi ci, donne-moi ça. Donc du coup, ça a été un peu difficile au niveau mental et physique, et donc un peu tout. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête vraiment? Parce que c'était fatigant. Je passais des journées à pousser mon vélo en fait dans les montagnes. Je pédalais même plus parce que j'y arrivais plus. J'avais plus la force en fait parce que vraiment, quand on a beaucoup de dénivelé, des routes de montagne, un vélo, il était trop lourd en fait pour pouvoir pédaler. Donc je passais des journées en fait à pousser. Donc du coup, je me suis fait les bras aussi. C'est intéressant.
Et t'as une idée du poids qu'il faisait à ce moment-là?
Je pense 50 kilos.
Ah ouais, quand même, ouais.
50 à 55 kilos à peu près. Oui, oui, parce que bah, quand on est seul, il faut quand même apporter pas mal de choses, des pièces de rechange pour le vélo, quelques vêtements, quelques affaires, des affaires de camping aussi, bivouac, donc tente, sac de couchage, matelas, etc. Donc oui, je pense avec le poids du vélo, une cinquantaine de kilos à peu près. Donc voilà. Donc c'est pas la même chose de faire du vélo d'accord. avec un vélo léger, un vélo de route ou que mon vélo qui est déjà un peu plus solide, enfin solide et lourd du coup, mais et puis chargé. Et puis avec l'eau, la nourriture aussi, parce que faut penser qu'on va pas trouver de l'eau partout, qu'on va pas trouver de la nourriture partout, donc on charge un petit peu aussi avec des provisions. Et donc, du coup, il y a un moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? J'arrête, quoi. J'en ai marre. En plus, je dormais dans des bouis-bouis. C'était plutôt des bars, enfin, des logements qui servaient de bars pour les routiers. Donc, il y avait des petits logements à côté. Donc, ils mettaient la musique à fond jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc, du coup, je me reposais pas très bien. Parce qu'effectivement, quand on part aussi à vélo, moi, je suis partie avec un budget vraiment minime. Donc, du coup, ça m'obligeait aussi à ou bien dormir chez l'habitant, ou bien camper, bivouaquer, ouais. ou bien se trouver des hôtels, mais vraiment pas cher. En Éthiopie, il faut savoir que camper vraiment dans des endroits peuplés, c'est pas vraiment très prudent. Dormir chez l'habitant, c'est pas très possible. Les gens sont pas si accueillants ou vont vous demander de l'argent et donc du coup vous allez plutôt vous faire avoir ou bah, trouver un petit logement local comme je faisais donc à côté des bars et des logements pour les routiers où il y avait des jolies demoiselles aussi qui attendaient justement les routiers donc c'était très agréable pour moi de de débarquer dans ces endroits où il y avait des jolies demoiselles finement habillée. Ouais. Et moi, j'arrivais juste pour dormir avec mon vélo. C'était vraiment... Bon, après, on finit par s'habituer, hein, je vous dis. Ça fait partie des choses, des anecdotes du voyage, quoi. Voilà. Et puis, finalement, on se dit, bon, ça fait partie de l'expérience du voyage aussi. Tout peut pas être tout rose. Après, les paysages étaient quand même magnifiques en Éthiopie. J'ai aussi trouvé des gens sympas, donc du coup, ça faisait un équilibre dans ma tête en me disant « Non, je ne peux pas abandonner quand même à ce point-là, je vais quand même continuer mon projet jusqu'au bout. » quoi. Voilà, c'était juste, il y a des moments où on se remet quand même en question de se dire « Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de... » Enfin, voilà, après, je me suis dit « Bon, c'est... » Toute aventure a aussi des mésaventures et des côtés moins beaux, moins faciles. Ça fait partie en fait de l'expérience et du voyage aussi à vélo.
Est-ce que c'est pas ça qui fait in fine la beauté de l'aventure à la fin?
Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, on apprend aussi à... Ça fait un petit défi aussi de se dire, j'ai surmonté ça. Bah, c'est comme dans la vie... On a des moments où ça va bien se passer dans sa vie et il y a des moments où on va avoir des problèmes, etc. Il faut quand même... Et puis, c'est moi qui ai choisi cette aventure aussi. Donc, il faut aussi se dire, bon, ça va être juste un moment comme ça et puis après, ça va aller mieux. Je vais être plus forte ou je vais pousser plus vite ou je vais pouvoir pédaler un petit peu ou je vais trouver des gens sympas aujourd'hui. Et puis, voilà, tout n'est pas non plus... voilà, négatif. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des moments où forcément on a un petit coup de mou, je pense, mais je pense que c'est tout à fait normal dans une aventure comme ça, d'avoir des moments où on se dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je renonce ou est-ce que je renonce pas, et puis finalement on trouve le courage, la force, et puis on trouve justement le courage nécessaire pour suivre, et puis pour aller au bout de son objectif. En fait, faut pas oublier en fait l'objectif qu'on s'est fixé. En fait, c'est toujours vivre avec l'objectif. En fait, je traverse un continent à vélo, c'est comme ça.
Oui.
Il va y avoir des moments merveilleux, il va y avoir des moments de misère, ça il faut le savoir, mais c'est tout. Mais il faut justement trouver la force pour continuer en fait, et pas se décourager.
Très beau message. Et donc là, l'Éthiopie, donc visiblement, troisième pays par lequel tu passes, après l'Égypte et le Soudan. De ce que je comprends, le premier où tu es confronté à des galères, que ce soit du fait de la géographie ou d'un accueil peut-être un peu différent de ce que tu avais pu retrouver au Soudan et en Égypte. Et là, juste pour qu'on l'ait en tête, là, tu parlais de résilience, de détermination, de durée dans l'effort. Ça fait déjà combien de temps que tu étais à vélo au moment où tu es arrivé en Éthiopie ?
Alors, en Éthiopie, ça faisait 4 mois. 3 mois.
Ah oui, déjà, oui. Oh, punaise.
3 mois.
Ah oui.
Ouais, 3 mois, je suis arrivée parce que j'ai fait un mois en Égypte et presque 2 mois au Soudan parce que j'ai tellement aimé que je suis restée plus longtemps que prévu. Et puis, en Éthiopie, après, c'était le troisième, quatrième mois, en fait.
D'accord.
Voilà. Et en fait, j'ai fait cette aventure en deux temps, c'est-à-dire que j'ai fait du Caire jusqu'à Addis Abeba. Ensuite, je suis partie travailler parce que j'étais saisonnière donc en Afrique de l'Est. Je suis partie travailler la saison. J'ai pas eu le temps en fait de le faire en une fois. C'est-à-dire que j'ai fait du Caire à Addis Abeba en 4 mois.
Ouais.
Et ensuite, je suis retournée à Addis Abeba à la fin de la saison en octobre. Pour aller jusqu'au Cap.
D'accord.
J'ai fait 3 mois et demi plus 6 mois. Voilà. Et c'est en plus au moment de retourner à Addis Abeba où je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je finis cette aventure ou est-ce que je... Qu'est-ce que je fais ? Parce que l'Éthiopie, ça me motivait plus. Enfin, voilà. Et puis finalement, j'ai quand même décidé de poursuivre. Donc oui, j'ai quand même fait une coupure en Éthiopie, c'est-à-dire à Addis Abeba, j'ai fait une coupure pour justement travailler 6 mois, parce que je pouvais pas me permettre de la faire en une seule fois. Et en même temps, quand je suis partie, je savais pas combien de temps je pourrais faire sur mon vélo, donc du coup, je suis partie sans trop penser. En fait, je suis partie quand j'ai eu le temps de le faire. En fait, ouais. Voilà.
Waouh. Donc l'Éthiopie, c'est comme si tu l'avais traversé deux fois en fait.
voilà, ouais, j'ai fait un petit bout, j'ai fait un grand bout. Bah, l'Éthiopie finalement c'est grand. Et puis je l'ai fait, oui effectivement. Donc quand je suis revenue à Addis Abeba pour renouer avec ce voyage, du coup j'ai pas regretté parce que l'Éthiopie c'est quand même un pays magnifique. Les paysages sont quand même superbes. Et puis il y a des gens finalement qui sont extraordinaires aussi. On trouve des gens super sympas. J'étais très bien accueillie, surtout dans le sud. Bizarrement, c'est un endroit qui est plus touristique.
Ok.
Dans la vallée de l'Omo. Alors je sais pas si tu connais. C'est là où vont pas mal de groupes et de touristes pour photographier les tribus. Parce qu'ils ont un mode de vie particulier, parce qu'ils vivent assez loin de tout. Ils ont gardé leur habit traditionnel, etc. Et le fait d'arriver dans une région comme ça touristique à vélo, les gens étaient plutôt étonnés et ça a été quand même plutôt un très beau souvenir en fait de voir la réaction des gens me voyant arriver, une femme seule à vélo et pas un groupe dans un 4x4 en voyage organisé. Et du coup, et ce regard des gens, en fait, de surprise, ça a été vraiment un cadeau pour moi. Enfin, c'était vraiment... je me suis dit, ils sont étonnés de voir une femme toute seule à vélo. Alors, ça m'a fait plaisir. Et puis, du coup, j'ai été accueillie dans les villages. J'ai pu bivouaquer en fait dans les villages totalement gratuitement, aller sur les marchés, voir comment vivaient les gens, et ça, les gens m'ont reçu vraiment à bras ouverts. Donc j'étais vraiment une expérience vraiment très très intéressante dans la vallée de l'Omo. C'était juste avant en plus de partir de l'Éthiopie, et ça m'a, du coup je me suis dit bon, l'Éthiopie c'était finalement pas que du mauvais, et même un bon souvenir maintenant
Ah bah comme
avec
quoi,
du recul. Donc
c'est super.
voilà. Oui,
Ouais. Comme quoi tu vois
voilà.
cette décision d'y retourner malgré tout et d'avoir persévéré. Au final, tu en gardes un bon souvenir. Je trouve que c'est génial à entendre.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors après, donc si je me trompe pas, je regarde la carte là en même temps que je te parle. Donc c'est 3 premiers mois et demi, 3 pays, et ensuite, alors t'as pas perdu ton temps. Tu as enchaîné le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, le Botswana, la Namibie, pour finalement arriver en Afrique du Sud. Donc ça fait, s'il y en a qui ouvrent une carte sous les yeux, ça fait une traversée est-ouest de l'Afrique, complètement depuis l'Éthiopie. Sur cette deuxième section, peut-être la première question, c'est comment est-ce que tu l'as, en quoi est-ce que tu l'as abordé différemment de la première? Parce que bon, en 3 mois et demi, premier voyage à vélo, t'as eu des apprentissages, j'imagine. Donc, en quoi est-ce que ta préparation, ton approche, ou tes attentes même peut-être, ont été différentes sur cette, deuxième partie?
Bah, disons que j'avais beaucoup plus confiance en moi. J'étais totalement confiante que j'allais arriver au Cap. Et en fait, c'était de l'adrénaline en fait tous les jours.
Ok.
De se dire, enfin, c'était vraiment l'aventure 100%. Parce que du coup, j'avais eu cette expérience là avant des 3 mois. Je savais que physiquement, que mon corps allait bien réagir. Après, bon, on sait jamais, hein, on n'est pas à l'abri d'un accident ou quoi que ce soit, mais je savais que déjà, physiquement, j'étais prête, et puis que les pays que j'allais traverser allaient être peut-être plus faciles, entre guillemets, parce que c'est des pays que je connais bien, le Kenya, la Tanzanie, c'est des pays où je connais bien les gens. Ensuite, il y a beaucoup de pays que j'avais déjà fait. J'avais déjà été au Malawi, j'avais déjà été au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud. Et le fait de les refaire à vélo, en fait, j'étais vraiment impatiente, en fait. C'était
Ok.
vraiment vivre 100% l'aventure tous les jours, quelque chose de merveilleux, en fait. Donc, c'était vraiment l'adrénaline, enfin, qui me poussait, qui pédalait. Enfin, c'était vraiment la motivation tous les jours. De se dire, oh super, je vais encore voir des beaux paysages. Enfin, j'avais prévu justement l'itinéraire en fonction des paysages que je voulais voir, des régions que je voulais traverser, etc. Et c'était vraiment profiter de l'expérience, profiter de l'aventure tous les jours à fond. C'était vraiment ça mon objectif, et c'était vraiment ça que j'ai fait, quoi. C'était vraiment trouver un bel endroit pour dormir, trouver des gens sympas sur le chemin, enfin voilà, profiter aussi de s'arrêter dans les endroits où vraiment je me sens bien, peut-être m'arrêter plus longtemps parce que j'étais pas vraiment pressée par le temps cette fois-ci, et voilà, et laisser place aussi à l'improvisation aussi, des gens que je rencontre, des endroits où je vais, des recommandations de d'autres voyageurs ou des locaux, etc. Voilà. Et c'était vraiment, allez, c'est parti, c'est reparti pour 6 mois. Et c'était vraiment à fond, 100% tous les jours.
Alors justement, tu parlais d'improvisation. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur un voyage de cette durée, qu'est-ce que tu anticipais et sur quels aspects du voyage est-ce que tu te disais, bon, bah, je verrai bien au jour le jour?
Rien préparé, à vrai dire.
Ok.
Non, non, non. Non, à vrai dire, j'ai rien préparé. Et moi, je conseille aux gens qui partent sur une longue distance à vélo de rien préparer, en fait, parce que ça sert à rien, en fait, de qu'est-ce que tu veux préparer? Enfin, ça va, les jours ils vont passer, et puis toi tu vas pédaler, tu vas avancer, enfin, naturellement, Après, moi, j'ai étudié tourisme, donc j'ai aussi étudié pas mal la géographie. Je connais aussi beaucoup. Enfin, dans ma tête, effectivement, j'avais déjà le tracé plus ou moins fait. Mais après, il n'y a rien qui était défini 100%. Hein. Je pouvais faire un détour ou passer par une autre région, etc. Et je pense que c'est ça aussi, le voyage à vélo, c'est aussi la liberté
Oui.
de pouvoir improviser. C'est ça qui est bien. Parce qu'en plus, en partant seul, c'est vraiment un 100% de liberté. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien partir à vélo et seul. Parce que du coup, c'est la liberté aussi de pouvoir improviser. Si on planifie toutes les étapes, tous les jours, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit là, dans 2 semaines, il faut qu'on soit là. Ben non, enfin, je veux dire, ça laisse peu de place aux rencontres. À pouvoir profiter d'un endroit qu'on aime bien, par exemple. Donc je pense qu'il ne faut pas trop préparer non plus. Il faut juste avoir une idée des pays par où on va passer, évidemment, pour savoir effectivement si les routes sont, enfin, dans quel état sont les routes déjà, parce que ça peut aussi beaucoup prendre du temps. Par rapport à l'état, si la route n'est pas goudronnée, bah effectivement, on va prendre beaucoup plus de temps que si elle est goudronnée. Le relief, etc., etc. Il faut quand même penser à un certain nombre de choses pour. Parce que 6 mois, finalement, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu pour le nombre de pays traversés. Donc, effectivement, il faut quand même penser à l'aspect état des routes, géographie, relief, etc. Mais après. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout préparer et laisser beaucoup de place à l'improvisation et à la rencontre et profiter des gens. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que je fais des voyages à vélo. C'est un petit défi sportif, mais surtout pour rencontrer des gens, pour l'authenticité du voyage, pour être dans la nature, pour bien connaître, mieux connaître un pays et prendre son temps aussi de découvrir. Comment vivent les gens et voir ce qui se passe en fait. Parce qu'à vélo, on voit beaucoup ce qui se passe. Moi, je dis toujours, les gens qui voyagent en bus, en fait, ils voient rien. Ils passent trop vite. En bus ou en train ou en voiture, enfin voilà. Les gens, ils passent trop vite. Donc, en vélo, on a quand même beaucoup le temps de s'imprégner d'un pays. Et je pense que l'improvisation est importante dans ce type de voyage. Mais ça, c'est mon point de vue, encore une fois.
Super. Un petit, j'aime bien ce que tu dis, le fait de décrire cette aventure comme étant un petit défi sportif, bon, quand même de 15 000 km. Bon, c'est une question de point de vue, j'imagine. qu'est-ce que tu. Alors, parce que ce serait.
Oui, mais je suis pas sûre que Strava, hein.
Ouais.
Je suis pas sûre que Strava.
Pourtant, là, je pense que tu aurais pu faire quelques records qui n'auraient pas forcément été beaucoup contestés, parce que vu l'itinéraire. Il doit pas y en avoir énormément. Mais oui, tu parlais de l'authenticité du voyage, des rencontres comme étant vraiment ce que toi t'es allé chercher. S'il y avait peut-être une anecdote, tu vois, une de ces rencontres que tu aimerais partager sur la deuxième partie du voyage, ce serait laquelle?
Ce serait peut-être la rencontre avec cette famille de pêcheurs sur le bord du lac Malawi. Alors, j'avais pas du tout prévu de passer par là au départ. Je me suis dit, bon, le Malawi, c'est un pays que je connaissais déjà, mais à mon goût, j'avais pas passé trop de temps sur les bords du lac. Je sais pas si tu connais le Malawi, c'est un pays qu'on connaît pas trop.
Oui.
Mais il y a un lac, donc du même nom du pays, le lac Malawi, qui ressemble plutôt à une mer et qui a des plages fabuleuses. Et on se croirait effectivement au bord de la mer. Et du coup, j'avais pas prévu de rester et je suis arrivée sur une plage magnifique. Et je rencontre une jeune femme qui était en train de chercher de l'eau au puits. Et puis, je commence à discuter avec elle. Je dis, ah, t'habites ici, t'as vraiment de la chance. C'est un endroit, c'est joli comme endroit. C'est vraiment très bucolique parce qu'on voyait quelques îles sur le lac. Après, il y avait tous les pêcheurs qui étendaient leurs filets sur la plage. Donc, ça faisait des couleurs rose, orange sur la plage parce que tous les pêcheurs étaient en train de réparer leurs filets pour partir pêcher la nuit. Et puis elle me dit, j'habite dans ce village-là, reste avec moi, j'habite avec ma mère. Donc du coup, je n'avais pas prévu de rester spécialement cette nuit-là dans ce village-là. Et puis finalement, elle m'a invitée, donc je suis restée. Et puis elle habitait dans une toute petite maison et du coup, elle m'a libéré sa chambre, etc. Bon, c'était vraiment... Et pas de meubles, rien. J'étais gênée, donc du coup, je me suis dit, ben non, je vais camper dans le jardin, tu sais, je suis mieux, j'ai ma moustiquaire en plus, voilà. Et le soir, son père rentre avec tout le poisson, donc ils ont fait cuire tout le poisson pour moi. Au lieu d'aller le vendre au marché, ils ont fait un plat de poisson incroyable pour toute la famille. Enfin, c'était comme la fête, en fait, pour eux, c'était comme un dimanche, en fait. Je me suis sentie gênée, en fait. Et puis, le lendemain, je me suis dit, bon, il faut quand même que je les remercie, en fait. Mais j'avais pas de cadeau, j'avais rien. Je me suis dit, en même temps, qu'est-ce qui peut leur faire plaisir? Et ça me gênait de leur laisser de l'argent, parce que vraiment, enfin, c'est pas vraiment mon point de vue de laisser de l'argent. Je préfère laisser des cadeaux ou quelque chose. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? On va aller chercher de l'eau. Et du coup, j'ai pris mes sacoches, on a chargé mon vélo et j'ai pris tous les bidons d'eau qu'elle avait chez elle. Et on est allé au puits ensemble. Et du coup, j'ai chargé mon vélo pour la remercier. J'ai été chercher de l'eau pour toute la semaine, en fait, pour eux. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, mais les gens, là-bas, ils marchent avec des bidons d'eau. Ils vont au puits une fois par jour ou deux fois par jour pour aller chercher l'eau nécessaire pour cuisiner, pour se laver, etc. Donc du coup, pour leur rendre le dîner, enfin l'accueil, etc., j'ai été chercher les bidons, l'eau au puits avec mon vélo et je suis revenue dans leur maison chargée avec les bidons d'eau. Ils étaient très contents et moi, ça m'a fait très plaisir aussi d'être accueillie comme ça. Et de manger du bon poisson du lac Malawi aussi. C'est vrai que c'est un accueil très, très chaleureux et très appréciable.
Ça fait envie, ça donne envie de se lancer, tu vois, d'improviser et de se laisser guider par la route et de faire des rencontres comme t'en as fait. Je trouve que c'est, tu vois, bon, j'ai jamais fait de voyage comme le tien, mais en tout cas, ni aussi long, ni à vélo pour le moment. On ne sait jamais. Mais c'est vrai que quand je discute soit de mes voyages à moi, soit de, comme là, ce qu'on est en train de faire avec toi, d'autres voyages, d'autres personnes, ce qui très souvent, voire même presque tout le temps, j'ai envie de dire, les plus beaux souvenirs, c'est très généralement, c'est des rencontres, en fait. Tu vois
Oui.
Souvent, on voit des oui. blogs de voyage où voilà, il y a des belles photos, etc. Et c'est vrai qu'évidemment, les paysages, ça fait aussi partie du dépaysement, mais en fait, généralement, les souvenirs qui marquent vraiment, c'est des rencontres.
Oui, effectivement, et surtout, je dirais, quand on voyage seul, c'est très important de s'ouvrir aux gens, c'est très important de privilégier les rencontres aussi, d'aller vers les gens, parce que du coup, sinon, on peut devenir fou. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'était les gens. Parce que quand on pédale toute seule pendant longtemps, on est loin de ses amis, on est loin de sa famille. Donc c'est très dur. On n'a pas forcément accès à un réseau téléphonique convenable pour pouvoir discuter avec sa famille ou ses amis. Et moi, c'est vrai que... Il y a beaucoup de moments où je me suis sentie seule. Parce qu'on passe beaucoup de temps, en fait, seul sur son vélo.
Oui.
On a beaucoup le temps de réfléchir, de penser, de méditer. Et parfois, on se rappelle des choses un peu négatives aussi. On a le temps de se souvenir de choses qui ne font pas plaisir, où on est dans la difficulté physique. Et donc du coup ces rencontres, en fait, ça fait tout le voyage pour moi. Ça fait le réconfort, la compagnie, la gentillesse, la bienveillance, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'Afrique, parce que je sais que les gens sont très bienveillants partout où tu vas. Surtout pour une femme seule, ils vont t'accueillir comme une sœur, comme une fille ou comme une mère maintenant à mon âge. Et donc, du coup, ils vont prendre soin de toi. Et surtout, à vélo, en fait, ils vont se dire oh, elle fait un effort pour venir nous voir. Donc, on va prendre soin d'elle. Et moi, les rencontres, en fait, que je faisais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour tenir le coup, pour se dire oh, il y a des gens formidables sur le chemin. Et il faut continuer ouais. ce voyage. C'est extraordinaire, en fait. Parce que les gens que tu rencontres, en fait, ils te soutiennent, ils t'encouragent à faire ce que tu fais. Et c'est vraiment extraordinaire. Mmh. Ça te donne beaucoup de force, en fait. Voilà.
Waouh. Tu sais, ça me fait repenser à certaines rencontres que j'ai pu faire au Népal par rapport à ce que tu dis, le fait de, que les personnes que tu as rencontrées, en tout cas sur ce voyage en Afrique, qui te donnaient beaucoup. Ce qui oui. me marque souvent, c'est que, en fait, c'est dans les pays où les gens n'ont rien qui donnent le plus. C'est quand même incroyable, ça, tu vois.
Oui.
Je pense que... Enfin, j'ai déjà discuté avec d'autres invités qui faisaient pas forcément du vélo, mais plutôt de la marche au long cours. Et en France ou, tu vois, dans d'autres pays, mais riches. Et qui disaient qu'ils n'avaient pas forcément retrouvé l'accueil, la générosité qu'ils ont pu bénéficier en oui. fait dans des pays qui ont juste des niveaux de vie qui ont absolument rien à voir quoi. Donc
ouais. Oui, on se demande pourquoi en fait pourquoi on est devenu comme ça nous si un étranger frappe à ta porte, tu vas le regarder bizarrement et tu vas lui dire pourquoi.
Ouais.
Alors pourquoi nous on est devenu comme ça? Pourquoi eux sont restés aussi authentiques et dans la générosité en fait? Ça,
c'est ouais. une bonne question. il faudra que tu te refasses un trip de 20 000 km à vélo pour pouvoir y réfléchir et on refera un épisode là-dessus.
oui, avec plaisir, c'est prévu.
Génial. Bah écoute, Émilie, on arrive au bout. C'était absolument fascinant de t'écouter nous raconter cette aventure africaine. Alors, moi, je repars. Au final, je suis hyper. C'était juste génial de pouvoir échanger avec toi, mais je suis quand même un petit peu frustré parce que quand je regarde le nombre de voyages que tu as fait dans des coins absolument incroyables, tu vois, j'aurais bien aimé qu'on en parle. Tu es allé en Nouvelle-Zélande, à Fidji, sur les îles Cook. Tu nous parlais du Népal. Je vois que tu as aussi fait le Kazakhstan, l'Europe du Nord. Enfin bon, c'est voilà, on aurait peut-être moyen de faire une saison entière sur tes voyages. Mais moi, je voulais te remercier vraiment du fond du cœur. C'était génial d'avoir un petit peu de ton temps pour que tu puisses nous faire voyager à tes côtés sur cette route africaine de 15 000 km, hein, puisque tu es ouais. vraiment sportive, on va le rappeler. Mais ouais, écoute, je te souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Je sais pas, est-ce qu'il y a une grosse aventure de prévu là qui arrive bientôt?
Alors, du coup, avec le Covid, je me suis un petit peu arrêtée. Mais oui, il y a une aventure qui arrivera, je pense, mi-2022. Okay. Donc, dans un an, je pense. Le départ est prévu octobre ou novembre 2022. J'ai vraiment l'envie de partir, enfin ça va se faire. Ce sera Europe-Pakistan.
Ok, voilà. Waouh, à vélo?
Donc à vélo, bien sûr. Moi je ne voyage plus qu'à vélo maintenant, okay. c'est clair dans ma tête. Ouais, donc ce sera, oui, départ sûrement en octobre ou en novembre 2022, au plus tard, et arriver au Pakistan en juin ou juillet 2023, quelque chose comme ça. Donc, il va falloir être patient,
ouais.
mais voilà.
Super. Bah écoute...
Mais c'est prévenu et ça va se faire, c'est sûr.
Génial.
Voilà.
Bah vu ce que tu as déjà fait, écoute, j'ai absolument aucun doute sur ta capacité à lancer ce nouveau projet. Mais en tout cas, tout le meilleur pour la préparation. Je mettrai le lien vers ton site ouais, Emmy Around the World en description de l'épisode. Et, oui. et puis écoute, à très bientôt peut-être sur les routes à vélo.
Oui, merci Loïc, et merci pour ton temps, et merci de m'avoir écouté. C'est super.
Avec grand plaisir. À bientôt, Émilie.
Oui, merci. À bientôt. Au revoir.